Je vais retourner en grand groupe, 2-3 minutes par grand groupe. Je commence, tiens, par la gauche, pour changer. Votre thématique, qu'est-ce que vous en pensez? Questionnement, limite, voilà. Avancez. Chut, on s'écoute, par contre. Oui, je commence par la gauche.
Nous, on va parler de l'allergie au lait, précisément. Et niveau questionnement...
Je me sens mieux. Oh, le grand pouvoir. Donc, niveau questionnement, on ne sait pas encore. On ne sait pas si on veut parler sur la cause de l'allergie. Donc, qui est la cause de l'allergie ou ce que l'allergie peut causer au niveau dans l'organisme. Donc, on est entre ces deux-là pour l'instant. Voilà.
Est-ce qu'il y aurait un apport que vous pourriez entrevoir par rapport à tout ce qu'on connaît sur l'allergie, par exemple?
Bah, par exemple, je sais qu'il y a les gens, ils peuvent deux fois assez souvent confondre une tolérance au lait et l'allergie au lait. Donc ça aussi c'est intéressant. Quoi d'autre? Bah, je sais pas. Vous
connaître la cause par exemple. C'est-à-dire? Parce que par exemple, l'intolérance au lait, c'est dû à une allèle au niveau des gènes, c'est génétique. Alors que l'allergie au lait, on ne connaît pas encore les différentes causes. On sait que c'est peut-être d'origine immunologique, mais on n'a pas encore fait de recherche là-dessus pour confirmer. Et du coup, on aimerait bien savoir à quoi c'est dû, parce que savoir, par exemple, l'origine, est-ce que c'est génétique ou est-ce que c'est d'autres facteurs comme lipides? Oui, non, voilà.
Parce que en fait, pour l'instant, on n'a pas bien approfondi nos recherches, mais on a vu qu'il y avait deux types d'allergies à la protéine de lait. Soit ça peut être dû aux anticorps IgE, ou soit il n'y a pas de lien avec les anticorps. Donc, voilà.
Donc, pour rebondir un petit peu sur l'aspect analyse, modèle prédictif, on voit déjà, on peut faire déjà un premier balayage de toutes les variables qui sont à travers vos interrogations. Oui. C'est déjà un premier truc. Voilà, bien. C'est bon, j'en demande pas plus hein, pour une première. Donc là, vous voyez, vous apprenez à vous connaître, vous apprenez les allergies, vous apprenez à poser un sujet et les premiers questionnements. Et on voit très curieusement que les premiers questionnements sont associés à des variables hein, qui vont être les supports des informations de différents types, de différentes importances, qu'on va essayer de faire parler à travers des fichiers, un cheminement des données. Alors à vous, deuxième groupe.
Ouais, du coup, nous, on aimerait voir l'impact de... Enfin, on connaît, on a déjà des données dessus, mais l'impact de l'entourage familial sur la santé mentale des enfants. Et du coup, on sait qu'actuellement, certains troubles psychiatriques sont en partie causés par des traumatismes vécus pendant l'enfance, ainsi que par des composantes génétiques. Mais on aimerait poser la question plus large... et de comprendre un peu l'impact des séparations familiales, que ce soit des séparations de couple ou des séparations dans la distance. Après, l'autre versant, l'impact des recompositions familiales, et aussi l'impact des problèmes des parents sur les enfants, type addiction, chômage, pauvreté. Et pour le moment, on s'est arrêté là.
C'est génial. Alors, vous voyez, pour ceux qui ne le savent pas, ou peut-être vous, ça vous intéresserait, c'est typiquement le travail qu'on réalise sur des cohortes. Ouais. Donc, vous travaillerez sur le mot cohorte pour certains. En santé, là, par contre, c'est des choses qu'on fait plus qu'en biologie. Mais vous voyez, chacun a ses petites marottes. Hein. Dès qu'on s'intéresse à généraliser une problématique au niveau médical, eh bien, il faut qu'on ait surtout sur des petits impacts. Vous allez voir que chaque élément interagit faiblement. Vous allez être surpris. Hein. Par exemple, quand on s'intéresse à l'impact de l'environnement sur certains cancers du sein, par exemple, vous allez être intrigué de voir que ça contribue très légèrement, mais de façon significative. Donc, tous ces petits plus sont des choses sur lesquelles il faut tirer une alarme quand on est en biologie santé. Donc, vous allez peut-être travailler sur des cohortes, et là, c'est nouveau pour vous sur des test sur intervalle de confiance avec ce qu'on appelle des odd ratio et des risk ratio. Hein, c'est pour les santé, là, essayez d'avoir ça en tête. Je ne vous demande pas d'être au taquet avec ça parce que ça vous fait des intervalles de confiance en log. Donc, vous travaillez sur des intervalles de confiance en log pour revenir sur l'information, c'est très compliqué, mais c'est des choses qui fonctionnent bien. Vous avez des tests où vous appliquez sur le clic souris et vous avez la possibilité de voir si le facteur de risque est là, eh bien, vous avez un chiffre de risk ratio qui est supérieur à 1. Donc, 1 ne doit pas être dans l'intervalle de confiance, on doit être même un petit peu supérieur.
D'accord.
Tout ce qui est facteur de protection, eh bien, on doit être inférieur à 1 et 1 ne doit pas être dans l'intervalle de confiance. C'est marrant, ça. Donc, si vous avez un intervalle de confiance qui va de 0,98 à 2,3, ben, ce n'est pas significatif. Oui. Un intervalle de confiance, en général, à 95%. Alors, on pourra en rediscuter. C'est du spécifique. Ça peut vous donner un élan pour aller vers ce domaine-là de risk ratio, odds ratio. C'est très utilisé dans le domaine hospitalier. Et ça peut vous amener à être, par exemple, à l'origine d'un article scientifique. Ce n'est pas de la blague. En travaillant pour des hôpitaux ou des choses comme ça. Parce que les chirurgiens ont besoin de gens qui analysent les données. J'en sais quelque chose. Ben, c'est bien. Je vais passer le micro au suivant.
C'est déjà passé.
Parce que là, on peut interagir avec deux micros. Vas-y.
Alors, pour l'instant, notre thématique principale tourne plutôt autour des plantes et des insectes. Du coup, la question pour l'instant, ce serait quels paramètres de la plante vont impacter la pollinisation des insectes et quelles plantes vont se faire le plus polliniser. Du coup, ce serait prendre en compte quand même beaucoup de variables comme pour être la forme, la taille, la quantité d'hectares produites. Ça peut être très compliqué.
Tu connais, tu as une enseignante qui s'appelle Julie Zacco. Donc tu la comptes.
On s'est beaucoup inspiré d'un projet de stage qu'on avait fait
l'année dernière. Ah oui, mais contacte tout de suite de ma part Julie Zacco.
D'accord.
Qui enseigne d'ici dans cette université parce que elle va te donner des idées. Par mail, universitéparissaclay.fr, parce que nous, on a encore notre mail universitéparissaclay.fr.
Oui, et j'ai remarqué, vous l'avez encore aussi dans le site
web. Oui, il va falloir que je l'enlève, mais mes collègues préfèrent ça, ils ne sont pas aussi prudents que moi, mais c'est du détail, ça. Donc, Julie Zacco, et c'est merveilleux comme thème, parce que là, vous pouvez faire du prédictif, vous pouvez faire de l'analytique, vous pouvez faire la recherche de variables essentielles et tout. Oh là 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 là, c'est... vous êtes en interaction avec les plantes. Les abeilles et pourquoi pas les humains.
Et aussi, pourquoi les abeilles, il y a pas mal d'autres insectes pollinisateurs qu'on ne peut pas rendre compte, comme certains diptères et...
Tout à fait, on ne parle que des abeilles. Ben, parfait, hein. Bravo. C'est de très beaux sujets, tout ça. Voilà. Très beau, hein. Très, très sérieux. Génial.
Je voulais parler.
Ouais.
Tiens, c'est toi qui écoute.
Alors, le quatrième groupe, oui.
Du coup, nous, on a plusieurs sujets en tête pour l'instant. On en a un sur les fourmis capables de détecter les cellules cancéreuses. On en a un autre sur l'importance du langage dans la survie des nourrissons. Parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des expériences qui étaient faites comme quoi si on ne dialoguait pas avec les nourrissons, ils ne survivaient pas. On a les troubles psychologiques comme la dépression chez les animaux en captivité. Et celui qu'on préfère, c'est l'effet des phéromones. À des fins de manipulation et là, dans un cas extrême mais globalement ce serait l'effet des phéromones humaines sur d'autres humains et si à terme ça peut être utilisé à des fins de manipulation.
Ben dis donc, ben, faites un choix, hein. Parce que là si je vous interroge sur les questionnements on n'en finit pas, hein, chaque sujet c'est très bien, très très bien, faites un choix. Ok, c'est bon ça. Alors encore une fois, vous n'êtes pas obligés tous d'avoir des sujets différents. Vous pouvez faire le même sujet sous des variantes, sous des formes différentes, avec des personnalités différentes et des choses. D'ailleurs, je vais vous dire une chose. Si vous interrogez une intelligence artificielle avec une question donnée et que vous reposez la même question quelques instants plus tard, vous n'aurez pas la même réponse puisque ce sont des modèles probabilistiques qui répondent à vos questions. D'accord ? Donc, on peut partir de cette remarque pour dire qu'il n'y a pas de raison que deux sujets identiques soient traités de la même façon. Donc, si vous avez des idées et que ça vous botte plus que ce que vous aviez choisi, pas de problème. On continue avec le cinquième groupe.
Nous, on s'était dit qu'on allait imaginer une petite histoire avec un scénario un peu type Covid, où il y a un humain dans le monde qui mange une espèce animale, du coup, dans notre cas, ça serait plutôt aquatique, d'une certaine région et qui tombe très malade et grosse pandémie, voilà. Et donc, nous, on va chercher un petit peu à regarder l'espèce qu'il a mangée dans la zone où elles sont malades et à comparer avec d'autres zones où elles ne sont pas malades. Donc, mesurer des données environnementales, le pH, salinité, etc. Et après, d'autres données, peut-être sur les individus, donc des tailles, quelque chose comme ça.
Est-ce que vous savez à quel domaine des sciences ça correspond, ça ?
Épidémiologie, oui.
Épidémiologie, bravo. Donc, vous êtes un profiler des données. Vous faites une enquête. Est-ce que vous savez quelle est la première grande enquête de profiling des données qui a été réalisée et en quelle année ? Presque. Quelle autre chose a frappé l'humanité ? C'était à Londres. Attends. C'était à Londres et on avait un problème de choléra. On était en 1849. Et donc, il y a un médecin qui a été plus malin que les autres, qui l'a repéré en dessinant sur une carte les points où il y avait le plus de victimes de cette maladie, où on avait enregistré le plus de cas de décès ou de cas foudroyants. Et il a remarqué qu'il y avait un point d'eau commun, effectivement, qui était, comme tu l'as dit, incriminé. Et c'est comme ça qu'il a sauvé des dizaines de milliers de Londoniens d'une épidémie qui aurait été encore plus catastrophique, simplement en interdisant le point d'eau. Vous imaginez ? Un profiler des données, à une époque où il n'y avait même pas eu Jacques Léventreur à l'époque. C'est un peu plus tard. Voilà, donc bravo. C'est vous les... Lucie, les sixième groupe ou septième. Ah oui, alors juste un truc. Alors les questionnements, en gros, vous pourriez faire, c'est, puisque vous êtes dans le domaine de l'épidémiologie, en gros, ou les prédictions, ou les... En gros, hein, deux mots.
Plutôt chez l'espèce qui a été ingérée, du coup, je sais pas. Dans ce cas-là, ça serait une zoonose, donc comment ça se transmet chez l'homme, ou pourquoi est-ce qu'elle est malade, des choses comme ça. Est-ce que c'est le milieu qui est en... Par exemple, un endroit qui est super pollué, qui a rendu cette espèce malade, et du coup, ça s'est transmis chez l'homme, ou un changement, quelque chose...
Et peut-être on pourrait penser à des mesures.
Ouais.
Pour éviter la pandémie ou pour alors des mesures qui peuvent être d'ordre écologique, pas seulement médicamenteuses.
Oui.
Donc, ouais, je les piste comme ça.
Merci.
Vous savez pourquoi les virus dont on a été victime récemment, et notamment le Covid, sont apparus, hein, c'est parce qu'on est allé trop loin dans la forêt. On est allé trop loin dans le monde sauvage. Nous, les humains, et trop vite. Donc, on a ramassé des choses qu'on n'aurait pas dû ramasser.
Nous, on voulait parler de la nourriture de demain, ou en tout cas, qu'est-ce qu'on va manger demain.
Oui.
Et du coup, on a eu plusieurs questionnements de départ. On a parlé de... Enfin, on s'est posé des questions sur les aliments qui étaient pollués par les métaux lourds, par les pesticides, etc. Mais aussi le fait que la production d'aliments, ça pollue. Et on est parti sur... Deux comparaisons, parce que je vais y arriver. on pensait comparer à la fois les apports nutritionnels de la nourriture de demain, donc avec par exemple le steak cellulaire ou les insectes, et comparer ça avec les apports nutritionnels de ce qu'on mange en ce moment. Et faire là je sais pas, on n'a pas parlé en équipe, mais peut-être faire trois stades, un stade où avec des personnes qui mangent, enfin qui sont carnivores entre guillemets, des personnes qui sont végétariennes, véganes, végétariennes, et des personnes qui carrément mangeraient carrément autre chose, donc soit les steaks cellulaires, soit les insectes, bref. Et on pourrait aussi comparer les ressources que ça demande de à la fois faire un steak normal et les ressources que ça demande de faire un steak cellulaire ou justement de faire une colonie d'insectes qu'on va ensuite manger et la pollution que ça va engendrer. Et voilà, on s'est posé ces questions.
Écoutez, les questionnements sont déjà bien posés, hein, donc effectivement. Alors je vais accélérer un petit peu parce que je vois que le temps passe. Je passe le micro. Oui, vas-y. Je passe là, c'est pour ça, bientôt ça va arriver. Vas-y.
Donc nous, on se posait la question de l'impact de la construction de la ligne du métro 18 sur les populations d'oiseaux. Et comme questionnement, donc impact sur la santé des oiseaux, par exemple s'il y a des polluants qui sont émis ou des choses comme ça. Donc impact sur l'individu de l'oiseau, impact sur la population en entier. Est-ce qu'il y a des différences d'impact entre les espèces d'oiseaux ? Est-ce qu'il peut y avoir possiblement une modification de la niche écologique, une destruction de l'environnement, une modification de la chaîne trophique avec impact sur les proies des oiseaux ou impact sur les prédateurs des oiseaux et qui donc aurait un impact sur les oiseaux aussi après. Donc des nuisances sonores aussi dues aux travaux. Est-ce que ça peut avoir un impact et est-ce que une fois que les travaux sont terminés, on peut pas avoir dû à cette ligne de métro une modification de la circulation, notamment peut-être une diminution de la circulation de voitures et donc au final peut-être un impact positif aussi sur la population.
Voilà. Voilà, c'est bien posé ça aussi. Pas mal. Très intéressant. Alors je vais faire parler le fond un petit peu pour libérer et puis après je finirai par vous pour être un petit peu dans le désordre. Vas-y.
Je peux aller ? Ok, bon bah du coup, nous notre thématique c'est la suivante. En fait, on va s'intéresser du coup aux différents modes d'alimentation qui sont actuellement présents dans notre société, c'est-à-dire les végétariens, les véganes, notamment aussi bah du coup les gens qui sont un peu plus omnivores. Et on va s'intéresser à un fait actuel. Je sais pas si vous avez vu aujourd'hui, il y a du coup récemment dans la loi, on a autorisé des farines à base d'insectes. Donc on va aussi s'y intéresser. En fait, on va chercher à voir si au final, lequel de ces modes d'alimentation est celui qui, au final, est le moins polluant. C'est-à-dire celui qui émet le moins de CO2. Voilà, merci beaucoup pour votre attention.
Ah ben, bien, bien. Alors voilà, un des derniers groupes.
Alors, nous, notre questionnement à Michel, Guillaume et moi, c'est sur la suppression du vieillissement. Et donc, nos questionnements seraient sur l'impact sur la société, donc démographiquement, qu'est-ce qui arriverait à la population, mais aussi économiquement, est-ce que des économies pourraient être faites ou est-ce que des coûts supplémentaires arriveraient, et aussi, est-ce que scientifiquement, est-ce qu'il y aurait une avancée des connaissances qui serait plus rapide ou plus lente, par exemple. Et on a aussi pensé à un autre questionnement qui serait plus... sur les causes du vieillissement, parce que dans l'état des connaissances actuelles, il y a plusieurs théories sur les causes du vieillissement, par exemple les ROS ou le raccourcissement des télomères. Et on se demande, est-ce qu'on peut créer une relation de corrélation ou de cause à effet entre ces différentes causes ?
Voilà. Bah, écoutez, c'est un sujet à la fois de science-fiction et bien actuel. Hein, Et on pourra se poser la question philosophique de savoir est-ce qu'il y aura un intérêt à ce que la vie soit immortelle, enfin, bref, qu'il n'y ait pas de mort.
Ok, du coup, nous, pour l'instant, on hésite entre deux sujets. Le premier étant sur la sélection humaine du coup, des races de chiens, les conséquences liées bah, du coup, au fait qu'on fait des croisements consanguins entre ces races, également par rapport à la prévention et même aux conséquences économiques, parce qu'on s'en doute que si c'est effectué, c'est parce qu'il y a une énorme demande. Après, est-ce que tout le monde sait d'où ça provient ? Et le deuxième sujet, ça concernait du coup la pollution par les médicaments dans les eaux, par exemple en France. Le fait qu'il y a certains médicaments, que ce soit des antidépresseurs ou des antibiotiques, qui sont libérés involontairement par des usines ou des médicaments même qui sont mal recyclés. Et donc, voilà.
J'avais un défi là-dessus. Je vais peut-être le ressortir.
On peut en parler, monsieur. Hein.
Par contre, j'ai une petite anecdote à vous donner sur la domestication des chiens, enfin, comment ils sont apparus. C'est que récemment, on a découvert qu'il y avait des empreintes de loups qui rentraient profondément dans les cavernes.
Okay.
Alors ça, c'est un mystère parce que les loups ne voient pas la nuit. Ils sont incapables de s'orienter. Donc, on en déduit que déjà... du temps préhistorique, on parle là des premiers Homo sapiens, donc environ 30 000 ans en gros moyenne, mais c'est bien, bien plus ancien, mais pour la partie européenne, c'est 50 000, 45 000, 50 000. Eh bien, on pense que les loups soit suivaient les hommes, hein, donc on pense qu'il y avait déjà une forme de domestication, c'est-à-dire que non-agressivité, et que c'était bien avant les chiens, quoi, et que, parce qu'ils ne pouvaient pas pénétrer vers les endroits où il y avait des fresques, sans lumière, voilà. Intéressant ça. Vous voyez, ça montre qu'effectivement, c'est dans la nuit des temps d'avoir une protection mutuelle, homme-loup. Bizarre. Du coup, plus qu'un seul groupe, vous. Alors, les derniers, mais pas les moindres. Hein. The last but not the least.
Du coup, j'y vais.
Ouais.
Du coup, nous, notre thématique choisie, ce serait le suivi des amphibiens par zone humide. Et ce serait sur Paris-Saclay, localiser différentes zones humides avec un inventaire faunistique des amphibiens, que ce soit visuel ou sonore. Pour la suite, après, le référencer dans une science participative ou dans un site, même une application, où les gens pourront localiser les amphibiens vus, du coup, de manière visuelle. Et ils pourront référencer des photos, des caractéristiques qu'ils auraient pu apercevoir, mais aussi des sons particuliers. Et on s'est dit qu'on pourrait peut-être localiser du coup ces données par rapport à d'autres cartographies, faire des corrélations, genre par exemple les cartographies où il y a le plus de pollution pour voir si ça peut impacter du coup la répartition, mais aussi on pourrait faire par rapport à la pollution sonore, visuelle ou lumineuse pour voir si ça peut impacter du coup l'installation des espèces amphibiennes et du coup ça pourrait plus tard nous aider à faire des plans de gestion pour protéger du coup la répartition des amphibiens parce qu'on sait qu'actuellement ce sont des espèces hyper menacées et on pourrait voir aussi par exemple par rapport à la fragmentation des habitats et voir quel impact ça pourrait être dessus et du coup ça pourrait répondre plus tard à une problématique, c'est comment favoriser la protection des espèces amphibiennes tout en conciliant les activités anthropiques pour essayer d'éviter au maximum l'impact de l'homme sur les amphibiens.
C'est génial. Alors là, oui, quand on dit qu'en L3, on ne peut pas faire de la recherche, on est des graines de chercheurs, hein, c'est dingue. D'ailleurs, vous, hein, vous tous, hein, c'est impressionnant. Bah, je vais m'arrêter là, vu l'horaire. Hein. Je vous remercie de votre participation. C'était vraiment génial. On a vraiment bien bossé. Vos projets ont de la gueule, comme on dit. Et puis, ben, je crois qu'on va être bien excités. Alors, je pourrais vous dire quelque chose en guise de conclusion. Si vous demandez à une intelligence artificielle, genre Claude, de vous générer une application téléphone qui réalise ça, ça et ça et ça, et de le faire en un quart d'heure, 20 minutes. Alors, pourquoi pas ?